Cours de critique par le père Philippe à Saint-Joseph le 11 février 1987.
Nous avons essayé de comprendre comment la réduction critique aboutissant au fondement de toute notre vie intellectuelle. Assimilation intentionnelle. L'intelligence est en premier lieu ce qu'il y a de plus vivant en nous, ce qui permet d'assimiler toutes les déterminations qui sont autour de nous. Notre connaissance est premièrement une connaissance. Et premièrement, une capacité de devenir l'autre. L'autre dans sa détermination, pas dans son être. De devenir l'autre dans sa forme. C'est le lieu de toutes les formes. L'intelligence s'assimile ces diverses formes. Assimilation intentionnelle, on doit poser la source de cette assimilation intentionnelle, qui est double. D'une part, l'intelligence qui reçoit ces déterminations, qui est informée, c'est la source de toutes les informations, qui est informée par cette forme, et l'intelligence qui se les assimile. Species impressa, species expressa. Je crois ceci très important à bien saisir. Nous pouvons, en réfléchissant d'une manière critique de notre vie intellectuelle, saisir qu'il y a bien là une opération fondamentale qu'on a appelée l'appréhension, qu'on peut appeler saisie, des quidités, des diverses formes, des diverses déterminations, des diverses modalités d'être. Vous voyez, l'origine des 10 prédicaments, des 10 modalités. C'est vrai que génétiquement, c'est bien la première opération. C'est l'opération radicale et fondamentale. Pour expliquer le passage de l'image au niveau de la représentation à cette forme intentionnelle, intelligible, et bien les deux problèmes distincts. Ça me semble capital de bien distinguer les deux au point de vue critique. D'une part, saisir le fondement de toute notre vie intellectuelle, assimilation intentionnelle. Il faudrait relire là ce passage dans Sartre. C'est dans le livre Situation de Sartre, où Sartre part en bataille véhémente contre cette philosophie de l'assimilation, en disant « La connaissance n'est pas une assimilation. La connaissance, c'est embrasser. Quand je connais l'arbre, je l'embrasse. » Et c'est dit à la manière de Sartre. Je comprends qu'il embrasse tout le monde, parce qu'il connaît tout le monde. faut qu'il embrasse tout le monde dès qu'il connaît. C'est une manière de connaître. C'est très intéressant, cette réaction. Une raison très violente. Alors, il a en partie raison contre la scolastique qui a fait de l'assimilation ce qui spécifie la connaissance, l'intelligence. L'assimilation n'est qu'un élément de la connaissance. Et c'est comme ça qu'il faut répondre à Sartre. On ne peut pas définir notre vie intellectuelle par l'assimilation. Mais on peut dire que ce qu'il y a de fondamental à notre vie intellectuelle, c'est l'assimilation. Et pour défendre cela, il faut rappeler que notre vie intellectuelle est une vie. Et que toute vie implique comme première modalité l'assimilation. Toute vie limitée assimile. Le vivant, c'est celui qui assimile. Et un grand vivant, c'est celui qui est incapable d'assimiler. Et le petit vivant, il a besoin d'un régime. Il y aurait des applications énormes à faire. Le petit vivant, il a besoin d'un régime. Quand on réduit la vie de l'intelligence à la logique, c'est le petit vivant, il a mal à l'estomac. Alors il ne peut assimiler que la logique. C'est-à-dire qu'il n'assimile plus que l'être de raison. Alors, très peu de choses qu'on assimile. On n'assimile plus que l'universel. Ça, c'est le petit vivant. Le grand vivant, c'est celui qui, justement, sait que tout intéresse l'intelligence humaine. L'intelligence humaine est intéressée par tout. L'intelligence humaine s'intéresse de tout. Et je crois que ça, c'est très important. Que l'intelligence humaine s'intéresse à tout. Toutes les réalités, il y a quelque chose à connaître. Rien n'est indifférent pour l'intelligence. L'intelligence a un appétit de connaître le réel et de connaître tout le réel. Je ne peux jamais dire que ça ne m'intéresse pas si mon intelligence est éveillée. Et je sais que la première chose que l'intelligence fait, c'est ce premier contact par où l'intelligence assimile les déterminations de la réalité, les quiddités, c'est-à-dire les formes. C'est bon, essayez de comprendre ça, c'est très important. Face à Sartre, vous voyez bien que ça c'est très actuel, hein, parce que si vous lisez cet article de Sartre et que vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas répondre. C'est très gros comme attaque, mais c'est très intéressant. Parce qu'au fond, ça montre que la philosophie de Sartre n'assimile plus. Et la philosophie de Heidegger n'assimile plus. Un vivant qui n'assimile plus est un vivant qui meurt. Peut-être que le dernier moment de l'intelligence, c'est lorsqu'elle rejette toute assimilation. L'idéaliste n'assimile plus, puisqu'il doit tout trouver en lui-même. Et c'est peut-être ça, le dernier moment de l'idéalisme. Alors, vous voyez, en face de ça, il y a tout. Il y a Sartre, il y a d'autre part la critique qu'on doit faire à l'égard des idées innées Descartes. Et je vous ai dit comment répondre à cela. Le fait que notre intelligence progresse montre que notre intelligence assimile. Et tout le progrès de la science montre bien que l'intelligence est capable de progresser. Et si l'intelligence progresse, ça prouve que justement, on ne peut pas dire qu'il y a des formes innées. Que l'intelligence découvre la réalité. Elle découvre la réalité. Elle la découvre progressivement. Donc, vous voyez, deux grands problèmes qu'il ne faut pas confondre et qu'il faut bien préciser. L'assimilation intentionnelle manipulation intentionnelle qui porte sur les formes, les modes particuliers de ce qui est. Les modes particuliers des formes, les quantités. Et deuxièmement,
culture
lecture d'images très très forte. Alors, doit-on laisser ces images s'user? Doit-on les remplacer par des images particulièrement pieuses? Doit-on faire un effort de réflexion pour faire le passage de l'image à la forme intelligible? Comment se fait ce passage? Oui, comment? C'est la question du comment. Comment se fait ce passage? Est-ce que ce passage est quelque chose qui vient extrinsèque à moi? Alors, deux solutions. Comment acquérir ce passage de l'image? L'illumination de Saint-Augustin. L'intellect agent d'Aristote. Deux solutions. De fait, deux très belles solutions. Hein. La solution augustinienne qui consiste à dire c'est Dieu qui illumine ces images et qui deviennent intellectuelles. Alors vous voyez, le danger, c'est que nous ne sommes plus entièrement cause seconde. Le c'est mauvais ré, hein, le c'est mauvais ré. Le c'est mauvais ré de l'intelligence n'est plus parfait. Le c'est mauvais ré de l'intelligence n'est plus parfait. Celui qui se meut n'est plus parfait. L'illumination de Dieu, parce que c'est tout de suite la cause première. Alors je suis comme un instrument, je suis parfaitement cause seconde au niveau de l'image, mais au niveau de la forme intentionnelle, je suis comme un prophète. Alors le passage entre la connaissance philosophique humaine et la connaissance de foi n'est plus nette. C'est très curieux que l'illuminisme de Saint-Augustin conduit à un fidéisme. Je crois. Il conduit à un fidéisme parce qu'on ne voit plus assez que l'intelligence humaine se meut. Elle est cause seconde. Tandis que l'intellect agent d'Aristote montre que l'intelligence humaine est capable par elle-même de se servir des images. Elle est motivée par les images. Et c'est vrai, je crois qu'on est motivé par les images. C'est dans ce sens-là, vous voyez, qu'il ne faut pas supprimer, hein, quand j'ai dit l'audiovisuel, il faut s'en servir. L'audiovisuel a beaucoup de bons. Si ça éveille et permet d'aller plus loin, mais l'audiovisuel peut éteindre devant la situation limite de l'image. C'est très complexe et c'est pas simple. Il ne faut pas être contre les images. Nous en avons tous besoin. Mais il faut comprendre que l'image n'est pas un absolu et que l'image demande d'être dépassée. Alors, de très belles images risquent d'arrêter. Des images qui sont Saint-Sulpice risquent, hein, voyez bien, de ne pas éveiller du tout et d'endormir. Alors vous êtes en face du dilemme entre les deux. Vous endormez. C'est du déjà vu. Ça tombe dans de la vaseline. Donc il n'y a plus aucun intérêt. Tandis qu'au contraire, il faut une image qui éveille et qui permette d'aller plus loin. Et donc, qui éveille l'intellect agent. Si vraiment nous avons en nous l'intellect agent, il faut que l'intellect agent soit motivé et complètement éveillé constamment. Alors c'est le passage de l'image, la représentation, à la forme intelligible. Donc voyez bien ce problème très particulier du passage de l'image à la forme intelligible. Sydney. Ce que je crois qu'on doit dire à cause de l'expérience que nous avons du progrès. Alors, il y a toutes les variantes dans les formes Sydney. La dernière position, c'est celle de Rosmini. Rosmini, Milan, hein, Rosmini, est un philosophe italien qui a eu une grosse influence. Rosmini fait une cote intermédiaire entre l'idéalisme et le réalisme. Il veut être réaliste et il est en même temps sous l'influence de l'idéalisme italien. Et Rosmini dit, il y a une forme innée en nous. C'est la forme d'être, le concept d'être. Le concept d'être est inné. Mais c'est pour ça que Maritain dit que le gosse, dans son berceau, il peut avoir l'intuition de l'être. Et c'est vrai, si vous avez une forme innée, si vous naissez avec la forme innée du concept d'être, et je comprends très bien qu'il peut ça, il dit qu'il y a une forme innée radicale qui vient directement de Dieu. Et on naît avec cette forme-là, donc avec les transcendantaux. Puisque la forme innée d'être implique les transcendantaux. Cette position transminique, j'allais dire l'ultime pointe pour essayer de comprendre comment ces formes innées peuvent quand même exister. Si je suis réaliste jusqu'au bout, je dirais non. La forme, le concept d'être est acquis dans le premier jugement d'existence. Et le jugement d'existence me permet d'acquérir, nous allons voir, le concept d'être. Et c'est donc pas quelque chose d'inné. Donc voilà les deux grands problèmes que nous avons essayé de comprendre, qui sont quelque chose d'absolument fondamental au point de vue critique. L'assimilation intentionnelle et la naissance de cette forme intelligible, de cette forme intentionnelle, la species expressa, comme dit saint Thomas. N'employez pas species expressa, n'est-ce pas, en dehors. Traduisez species par forme. Alors forme intentionnelle, c'est buvable. Mais species impressa, c'est imbuvable. C'est la même chose. Et il faut tout simplement l'exprimer différemment. Donc cette forme intentionnelle qui détermine mon intelligence sous l'action de l'intellect agent. Et je crois qu'on ne peut pas rejeter l'intellect agent. Je crois que l'intellect agent demande d'être maintenu. Alors je vous renvoie à toute la réflexion de saint Thomas sur l'intellect agent dans le contrat gentilet. Si on avait le temps, on lirait ça à fond. Ça vaudrait la peine. C'est une très belle lecture à faire. Il y aura un séminaire sur l'intellect agent qui serait extrêmement intéressant en regardant le contrat gentilet de saint Thomas. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que c'est une pièce dominante, vous comprenez, pour saint Thomas. Et c'est ça qui est intéressant à voir. Il y a deux démonstrations a posteriori fondamentale, celle qui, dans l'ordre de l'être, aboutit à poser l'être premier, celle qui, dans l'ordre de l'intentionnalité intelligible, aboutit à poser l'intellect agent. Les deux premiers que nous démontrons selon une démonstration a posteriori, c'est-à-dire à partir des effets, c'est l'être premier que est la source de l'intelligibilité, de l'intentionnalité intelligible. Et ces deux sources, vous les dévoilez par la démonstration a posteriori. Alors, voyez, cette source de l'intellect agent, vous voyez bien le genre de raisonnement que vous faites. Il y a un passage, je constate deux choses. Toute démonstration a posteriori se fait à partir d'une constatation. Je constate deux choses. L'existence de l'image. Il existe des images en moi, je ne peux pas nier. Et il existe des concepts en moi. Je le découvre aussi. Je peux découvrir que mon intelligence pense. Et le langage est signe de ma pensée. Alors, ici, je suis en face de l'universel. Et ici, je suis en face du singulier. Toutes mes pensées ont un mode universel. Et toutes mes images sont singulières. Comment se fait le passage de l'un à l'autre, puisqu'il y a quand même quelque chose qui les unit. Qu'est-ce qui les unit? C'est le problème de la signification. Quand je vois un chat, je dis c'est un chat. Et chat a une signification. Et chat ayant cette signification implique cette image particulière du chat, du petit minet. Il y a une représentation. Et il y a quelque chose de commun avec l'expérience chat. C'est de l'ordre de la détermination, exprimée par la signification du concept de chat, exprimée par le mot chat, qui est un mot universel, qui logiquement est une espèce particulière d'un animal particulier. Vous pourriez décrire. Donc il y a quelque chose de commun depuis la réalité expérimentée jusqu'au mot chat. Il y a une continuité. Mais vous passez par le mode singulier puis le mode universel. Et il y a quelque chose de commun qui demeure. Qu'est-ce qui explique ce passage de l'expérience à l'image et à la forme intentionnelle? Il faut quelque chose qui explique ce passage, puisque je suis devant une diversité où il y a une certaine unité, une certaine continuité. Qu'est-ce qui explique ça? Il faut donc qu'il y ait une certaine cause, une certaine source immanente, puisque tout ça se passe au-dedans de moi-même, immanente, que je peux, dont je peux me servir. Je fais un effort de pensée et je passe de la représentation au mot chat et à la pensée chat. Et donc, je m'applique à penser. C'est constamment ce que nous faisons quand vous êtes en face d'une nouvelle expression, la supposition. Vous dites, qu'est-ce que c'est que cette bête? J'ai jamais entendu cette bête particulière, la supposition. Vous avez entendu le mot, puis vous dites, comment? Qu'est-ce que ça signifie? Et puis après, vous avez une petite image de la supposition dès que vous avez un sujet, un suppos. Ah, oui, ça reçoit. C'est ça. C'est quelque chose qui est capable de recevoir. Et puis vous rejoignez la réalité existante dans ce qu'elle a de fondamental. Oui, vous faites ça dès que vous êtes devant un nouveau mot, quand vous regardez dans votre dictionnaire. Larousse, et que vous essayez d'apprendre de nouveaux mots. Ce mot, tiens, alors vous apprenez, votre intelligence s'éveille par les mots. Mais tant que vous restez dans les mots, vous restez dans l'ordre imaginatif. Puis vous essayez de dire, ah tiens, oui, ah, je connais cet animal. Cette herbe rare, merveilleuse, qui a des propriétés merveilleuses pour guérir les gens. Ah, je voudrais bien la rencontrer. Pour en faire une tisane pour mes frères et les guérir. N'est-ce pas? Alors vous cherchez cette herbe jusqu'au moment où vous l'avez. Puis alors vous la regardez bien. Exactement ça, c'est ça, c'est bien ça. à ce moment-là. Vous saisissez, ça vous est représenté. On vous représente, puis vous la retrouvez dans la réalité. C'est qu'est-ce qui permet de faire la continuité entre l'herbe qui existe, que vous avez découvert sur le trottoir, et puis cette image extraordinaire qu'on vous a représentée dans un livre scientifique comme une herbe très rare. Les herbes les plus rares sont celles du trottoir. C'est pas étonnant, du reste. Alors, vous l'avez découvert, là. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites une juxtaposition de représentation. C'est exactement ça. C'est la figura. C'est très curieux, c'est la figura. C'est la détermination qui fait le lien. C'est donc la détermination dans l'ordre quantitatif et qui vous rejoint avec le réel. Et vous avez le concept. Qu'est-ce qui fait le lien? C'est la détermination. La signification. Et la figura, c'est le passage entre la figura et la signification qui fait le lien. Qu'est-ce qui permet de passer de l'un à l'autre? Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui fasse le lien dans cette diversité. Il faut donc qu'il y ait une source qui illumine l'image et qui fasse passer de la représentation à la signification. Ah, vous pourriez très bien dire, moi ça ne m'intéresse pas, je regarde la signification. Je regarde la représentation, je regarde la signification, ça me suffit. Oui, ça vous n'expliquez pas. Vous restez devant deux choses et puis c'est tout. Comment se fait-il que le même individu passe si facilement de la signification à la représentation? Et vous le faites couramment, ça. Un herboriste fait ça constamment. Celui qui aime les petits oiseaux fait ça aussi. Il voit les petits oiseaux, les crânes des petits oiseaux extraordinaires. Et puis il regarde dans la réalité. Ah, c'est celui-là. Vous avez le mot, vous avez l'image, puis vous avez la réalité. Et au fond, vous êtes content, si vous êtes un peu intelligent, vous êtes content que quand vous avez le petit moineau dans votre main, c'est bien celui-là. Ou quand vous avez cueilli l'herbe directement. Alors à ce moment-là, vous dites, oui, c'est bien ça, jugement d'existence. Vous n'y pensez pas, mais c'est jugement d'existence. Et jugement d'existence fait l'unité à travers tout ça. Dites maintenant, je suis content, je sais. Tant que je n'ai pas découvert. Alors, il y a un passage, vous voyez, entre la signification, la figura et le jugement d'existence. C'est très curieux, ça. Il y a une unité qui se fait. Comment expliquer cette unité? Qu'est-ce qui fait cette unité? Dans cette diversité, il faut donc qu'il y ait au-dedans de moi-même une source capable d'illuminer mon jugement d'existence, ma représentation et la signification. Et c'est ça que j'appelle l'intellect agent. Cette source active qui illumine et qui fait l'unité intellectuelle de connaissance de ces passages en moi. C'est ça que j'appelle l'intellect agent, c'est ça qu'on a appelé l'intellect agent. Le premier qui l'a découvert l'a appelé l'intellect agent. Les autres ont répété le mot. Mais il faut, au-delà du mot, découvrir la réalité. C'est cette source active qui illumine le concept ayant sa signification, la représentation et le jugement d'existence. Alors, je comprends pourquoi je dis intellect agent, parce que c'est de l'ordre de l'intelligence. Et c'est pas quelque chose de passif qui reçoit et qui connaît et qui garde. Mon intelligence qui pense, garde. Mon intellect agent chasse. Chasse, vous voyez dans quel genre? Chasser. On chasse le gibier. On cherche. L'intellect agent, c'est l'élément dynamique en moi. Le chercheur sait très bien ce que c'est. Tant que je n'ai pas découvert, je veux trouver. L'image est un signe saisit. La telle chance reçoit. Elle garde, elle assimile. Garder de la manière la plus forte, c'est assimiler. Vous ne pouvez pas garder plus qu'en assimilant. Assimiler, c'est garder, c'est conserver d'une manière extraordinaire. Le frigidaire n'assimile pas. C'est pour ça qu'il garde très mal. Il peut garder en faisant pourrir. Les fruits gardent une apparence extraordinaire, vous les ouvrez, hein, le frigidaire est passé. Et c'est pourri dedans. Ça garde très mal. Ça garde de la façon extérieure, façon purement extérieure. Tandis que quand vous gardez d'une façon intérieure, c'est assimilé. Ah, ça ne pourrit jamais. Tout ce qui est assimilé ne pourrit pas. Et ça vit tant que le vivant vit. Il faut bien faire attention. Hein. Garder, il y a garder en faisant pourrir. Et il y a garder en assimilant. Et là, vous voyez tout de suite les deux manières. Il y a des gens traditionnalistes qui gardent en faisant pourrir. Et il y a des traditionalistes qui gardent en assimilant. Tout de suite. Hein. Parce que garder, oui, on garde des fruits, c'est évident, on garde l'acquis. Vous gardez le patrimoine. Mais vous gardez le patrimoine quelquefois comme un frigidaire. Alors ça pourrit. Et puis vous gardez en assimilant. Et quand vous gardez en assimilant, vous acceptez que ce soit vivant et que ça progresse. Tandis que quand vous gardez comme le frigidaire, vous ne voulez pas que ça progresse, mais vous aimez mieux que ça pourrisse. Extraordinaire. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a un traditionnaliste qui fait pourrir. Je garde. Oh oui, vous gardez uniquement. C'est ça le pharisaïsme. On garde les formes, l'extérieur. La poire reste parfaite, la pomme reste parfaite. Quant à sa couleur, à sa couleur et sa physionomie, mais à l'intérieur c'est pourri. Donc, il faut bien comprendre cette chose très étonnante de cette source intérieure vivante qui fait l'unité entre ces différents aspects que je constate en moi. Où il y a une continuité. suis en présence d'une abstraction. Alors ajoutez, quatrième élément ou troisième élément, le passage de l'image à cette forme implique l'abstraction. Et tous ces problèmes impliquent des significations. Donc origine de ces formes et puis abstraction. Troisième problème, l'abstraction. C'est très important de comprendre ce premier moment d'abstraction, qui est l'abstraction universelle, dont je ne suis pas conscient. Je constate. Mon langage est universel. Mais je n'ai pas saisi le moment où j'ai commencé de passer de des représentations singulières de mes expériences à la signification universelle. Vous ne savez pas. Vous constatez ça. Vous pouvez, après coup, comprendre, dire oui, je passe comme ça successivement, c'est vrai. Mais cette abstraction universelle, cette opération particulière de passer du singulier à l'universel, je constate. Abstraction pour laisser tomber tout ce qui n'est pas assimilable. Tout ce qui n'est pas assimilable dans le réel, dans la réalité existante, je laisse tomber. J'abstrais.